je suis l'acteur le plus physique du Québec.
On travaille dans l'ombre.
Toi, ta job, c'est d'être invisible.
Ça fait un an qu'on travaille là-dessus. C'est le deuxième contrat qu'on perd en moins d'un mois à cause de lui.
J'aime pas, non?
T'es en haut de tout ça. Toi, tu regardes les gens, pis fuck off. J'étais intelligent. Ça, c'est toi.
Votre job, là, c'est de trouver du talent pis de le mettre au monde. Pas juste être au service des vedettes.
C'est un extrait de cette série que l'on attendait, puisqu'on en parlait dans sa création, on attendait la version québécoise, Les Invisibles.
Oui, Les Invisibles, qui est l'adaptation d'une série française qui s'appelle Appelez mon agent, qui est rendue quand même à sa troisième saison. J'avais envie ce matin d'inviter les quatre invisibles. Donc, autour de la table, Karine Gontier-Heinemann, bonjour.
Bonjour.
Bruno Marcil.
Hello.
Daniel Lorrain.
Bonjour.
Et Benoît Moffett.
Bonjour.
Bonjour, Les Invisibles.
Hello.
C'est cool, on vous voit.
Oui, on n'est pas invisible finalement.
Pas tant que ça.
C'est de la fausse représentation.
Surtout moi, je suis un gros chandail rouge, je ne suis pas très invisible ce matin.
Je flash pas mal, Daniel.
Cette série, Appelez mon agent, quand on vous a approché pour le rôle en vous disant que c'était pour être adapté pour le Québec et qu'on vous a parlé de vos personnages, est-ce que c'était quelque chose qui était quand même assez stressant d'aller reprendre des rôles qui ont existé sur un autre continent?
Moi, je pense pas plus qu'une autre série. Après ça, c'est sûr que les gens ont des attentes quand ils ont vu une série qu'ils aiment. Alors, on souhaite être à la hauteur de leurs attentes. Mais en même temps, nous, on avait le mandat d'en faire vraiment notre émission, notre version, de pas comparer avec les autres, puis de s'approprier le show, puis c'est ce qu'on a fait. Donc, je veux dire, on souhaite toujours, quand on fait un nouveau show, que les gens aiment.
Moi, les attentes, c'était surtout, vas-tu avoir un chien? Est-ce que vous avez un chien? Comment va s'appeler votre chien?
Parce qu'en France, il y a un chien qui s'appelle Jean Gabin.
Arlette, il s'appelle Jean Gabin. Moi, j'aurais bien aimé ça d'en avoir un ici. On voulait l'appeler Monsieur Duceppe. Mais bon, je veux dire, on n'a pas d'argent pour avoir un chien. Puis l'Arlette que je fais est plus jeune que l'Arlette française, qui est une dame qui a à peu près, enfin, qui a 80 ans, je crois, en montant. C'est pas la même saveur, c'est pas la même. On est au Québec, c'est un autre personnage, c'est un autre.
Puis au départ, c'est les textes. On lit les textes, puis c'est ça qui va nous enflammer, c'est ça qui va nous donner le ton. Et tout de suite, moi, c'est beaucoup ça qui m'a donné le goût encore plus. J'adorais moi, j'avais déjà vu la série française, je trouvais ça formidable. Mais quand j'ai lu les textes d'ici, l'adaptation qu'avait faite Catherine Léger, tout de suite, ça a comme fait waouh, ça va être formidable, quel plaisir qui est devant nous.
Il y a toute la facture visuelle aussi, puis l'habillage sonore qui amène la série complètement ailleurs. On est vraiment... Les gens qui ont vu la série française vont peut-être reconnaître certaines intrigues, mais on voit tout de suite, très, très rapidement, qu'on est dans une autre émission. Là. On voit quelque chose de nouveau. Là.
Les quatre, est-ce que vous vous connaissiez avant de jouer ces rôles-là, avant de faire partie de la série?
Moi, je connaissais très bien Karine, Benoît, on commençait à se connaître. On avait eu un man crush.
Un man crush?
Oui, vraiment.
Ça existe, ce point-là.
Les deux, trois premières fois qu'on s'est vu, on était comme, faut qu'on se voit.
Okay.
Bon, on s'est ramassé chez nous dans un party où il accompagnait une amie. Et tout de suite, on s'est adorés. Et on s'est revus deux, trois fois, puis on était comme, mais là, il faut qu'on se voit, nous autres.
Ouais, ben, puis les gens ça aussi, dans le party, ils disaient, voyons donc, vous aimez donc bien.
Entre-temps, ils se sont mariés.
Je connaissais, bien sûr, à la télé pour les avoir vus faire autre chose, mais je les avais jamais rencontrés dans la vraie vie.
Daniel, j'ai été surprise quand même quand j'ai appris que tu étais pour jouer ce personnage-là, parce que je sais qu'il y a des caméos. Je savais que Sophie Lorrain, ta sœur, était pour en faire un.
Ouais.
Puis là, je me disais, ah, si Daniel joue le personnage d'Arlette, elle pourra pas faire de caméo avec sa sœur et sa mère. Donc, ça te bloquait automatiquement. Tu pouvais pas te jouer toi-même ou jouer la famille ou...
Non, mais eux autres peuvent se jouer eux-mêmes.
Oui, je sais.
Moi, mais ça s'est passé dans le deuxième épisode.
Mm-hmm.
Ça s'est passé
Sophie.
La semaine dernière avec Sophie Lorrain, qui faisait Sophie Lorrain la productrice, puis moi qui faisais Arlette, qui venait la voir pour essayer de la convaincre de changer d'idée au niveau de la barbe, à laquelle elle était restée accrochée. Tu vois, ça, l'histoire de la barbe, là, ça, là, c'est pas les Français. Là.
Non,
ça,
c'est passé québécois,
ici, au Québec,
avec Pierre-Luc Briand.
C'est ça. Alors, tu sais, mais je trouvais ça un peu bizarre au début. Quand ils nous ont proposé cette scène-là, j'ai dit, ben, ça va être un peu bizarre. J'ai dit, vous êtes sûr que vous voulez que Sophie et moi, on joue ensemble? Parce qu'elle, elle va jouer elle, puis moi, ben, je jouerai pas moi.
Non, c'est drôle parce que votre relation est un petit peu, dans cette scène-là en particulier, il y a quelque chose de deux sœurs. Tu sais, au sens où toi, tu y fais, comment tu vas, toi, de ce temps-là? Là?
Ben
puis
oui, ben oui, parce qu'elle la connaît depuis longtemps. Arlette,
ben
elle connaît tout le monde depuis longtemps. Elle connaît tous leurs problèmes, elle connaît toutes leurs histoires. Donc, quand elle va la voir, elle sait qu'elle a affaire à une angoissée, puis elle dit, pis, tu te grattes-tu, là? T'es-tu rendu au sang, quasiment? Bon, tu sais, mais je le sais que c'est tout ça pour dire que ça a été rendu possible comme ça, parce que finalement, cette scène-là, elle a bien marché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Facebook et les autres réseaux en me disant « Hey, on a-tu aimé ça, le duo, les deux sœurs Lorraine ensemble, ben oui. On voudrait le revoir.
» Est-ce que vous vous engageriez dans vos personnages comme agent?
Ouais, je, oh boy!
Oui. Moi, définitivement.
Ouais, toi, t'es une tigresse, hein?
Ah, moi, je suis une shark. J'ai les dents bien acérées. Ouais. Mais oui, puis aussi, je pense qu'Alexandra, elle a une sensibilité par rapport au milieu artistique. Je pense que le personnage comprend très bien ce milieu-là.
Je pense que tu sers très bien tes artistes.
Et je pense que quand je même. Les sers bien. Ouais. Je les sers pas dans mon intérêt. Il y a certains personnages qui servent les artistes dans leur intérêt.
Oui, peut-être plus que toi.
Ouais. Je veux pas pointer du doigt.
Moi, je m'engagerais, moi, parce que pour les névrosés de ce monde, les pauvres artistes qui font des dépressions, qui viennent broyer dans ton bureau, là, ouais. Je suis la parfaite pour ça.
Moi aussi, je pense que mon personnage est très sensible, il est proche de ses clients.
Mais là, vous n'êtes pas lucide.
Benoît, t'es pas très lucide.
Est-ce que c'est réaliste, par contre, la relation qu'on voit dans la série, si on pense à vos agents, à la façon dont vous travaillez, vous le connaissez, le milieu,
c'est sûr que c'est romancé, c'est une fiction, fait qu'il y a des trucs qui vont être plus poussés, mais on a des rapports très intimes avec nos agents, on peut parler de job, mais on peut parler de notre vie intime, on peut parler de plein d'affaires comme ça, et les enjeux qu'on voit dans la série sont souvent des enjeux qui se sont passés pour vrai. On n'aime pas les bonnes personnes, on va changer la réalité, mais il y a beaucoup, beaucoup des histoires qui sont des histoires qui sont arrivées pour vrai, aussi loufoques soient-elles, ce sont des histoires qui existent dans ce milieu-là, parce que des fois, c'est assez frisé ce qui se passe dans ce milieu-là.
Comme quoi, là, il y a quelque chose de crunchy.
Ben, la barbe, c'est un exemple réel qui s'est produit. Il y a eu, il y a un acteur qui avait un rôle dans une série avec une barbe, puis il y avait eu un autre rôle dans l'autre série. Il fallait pas de barbe. Et ça a duré 2 semaines, et l'agence au complet est à l'envers pendant 2 semaines pour gérer ses poils.
Une barbe.
Ben à la fin des épisodes, il y a un avertissement. Elle dit, bien que certains événements puissent ressembler à la réalité, c'est de la fiction. Puis moi, j'étais content qu'on a vu à la diffusion. J'étais content de voir ce message-là. Je dis, ben oui, c'est vrai. Tu sais, on est proche de la réalité. Ben donc, oui. il faut être prudent quand même et faire le petit avertissement à la fin. Mais ouais.
Les agents, est-ce que ça aide vraiment une carrière?
Tout à fait.
Parce que moi, on m'a souvent dit, tu sais, que c'est des appels au casting, vous allez faire des auditions, mais à un certain moment donné, c'est plus les diffuseurs ou les producteurs qui choisissent. Puis un agent fait-il vraiment la différence?
Mais c'est-à-dire qu'un agent, c'est une relation très intime qui se développe comme tu souhaites qu'elle se développe aussi. Donc, il y a quelque chose qui se développe selon la relation que tu as avec ton agent. Mais pour ma part, mon agente fait beaucoup, beaucoup de travail en amont. Donc, il ne s'agit pas juste de me dire que dans mon agenda, j'ai un rendez-vous ou que j'ai décroché une audition. Elle-même fait du travail en amont quand elle sait qu'une certaine production arrive, qu'elle pense que je pourrais peut-être correspondre à un certain rôle, etc. Elle s'occupe de préparer le terrain pour moi. Bien souvent, moi, quand j'ai décroché Like Moi, je veux dire, je le dois vraiment à mon agente parce que personne ne me connaissait à ce moment-là. Personne ne voulait me voir en audition. Et elle a poussé très, très fort pour convaincre les gens de me voir en audition. Puis si elle n'avait pas été là, j'aurais jamais fait l'audition, j'aurais jamais eu Like Moi. Et plus que ça, c'est ton agente ou ton agent se doit de t'accompagner dans tes choix artistiques, qui tu veux aussi, devenir oui. comme artiste. Ouais. Donc, ton agent t'aide à faire des choix très éclairés par rapport à ça, parce que ça peut être facile de se perdre à un moment donné, puis d'accepter toutes sortes de contrats, puis d'oublier qui on est, puis où est-ce qu'on veut aller.
C'est aussi ça, c'est parce que on est quand même notre propre outil de travail, on est notre propre business en quelque part, fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est pas un ami, qui est pas le conjoint, qui est quelqu'un qui travaille pour toi, avec toi, mais qu'on est en équipe. Fait que si on a des questionnements ou quand dans notre préparation ou nos rapports avec les autres, on peut dialoguer avec lui, puis ouais. c'est quelqu'un qui nous ouais. donne la perspective, qui nous permet de justement se voir dans ce contexte-là.
Et c'est quand même l'intermédiaire entre toi et les gens de la production ou tout ça, tu sais, parce que si toi, des fois, tu parlais directement, tu pourrais faire des gaffes ou tu pourrais être trop, tu sais, donc ça, il faut quelqu'un qui est un peu neutre là-dedans, qui est le tampon et qui agit, tu sais, c'est un peu le diplomate, là, vraiment, c'est un rôle de diplomate qui dit, bon, ben moi, je pense que, puis est-ce qu'elle pourrait faire ça, puis si, puis ça, oui, mais moi, puis aller à la charge et puis trouver les bons arguments, puis tout ça, parce que nous nous autres, on veut, tu sais, on veut tellement, on veut trop, on veut.
Il y a de l'émotion.
Il y a de l'émotion. Quoi. Nous, c'est ça. On est émotif par rapport à ça. Ouais. Moi, souvent, mon agent me calme parce que je suis trop énervé, je suis trop émotif. Ça, je dis ben non. Tu sais, il me parle tranquillement.
La série vient de débuter. Est-ce que vous pensez que les téléspectateurs vont prendre les épisodes pour du cash? C'est-à-dire croire vraiment ce qui se passe avec des vedettes comme des Patrice Robitaille, Julie Le Breton, Marc Messier, tout ça.
Ben, en tout cas, nous autres, je pense qu'on espère qu'ils vont y croire. En tout cas, prendre pour du cash, je sais pas, ça serait drôle.
Il y en a clairement qui sont, c'est fort, là, mais je pense tant mieux s'ils croient.
Ben oui.
Mais c'est sûr qu'il y en a que c'est très fort. Marc Messier, par exemple, à qui je pense qu'il est dans deux épisodes, il est pas mal flyé, notre Marc. Mais on peut te dire que c'est Marc Messier.
Mais c'est nouveau aussi. C'est un univers, c'est un nouvel univers pour les gens à découvrir parce qu'on est, on ne sait pas comment ça fonctionne une agence d'artistes. On s'imagine que les gens arrivent comme ça, débarquent au théâtre, à la télévision, puis qu'on fait notre. Ils savent pas tout ce qu'il y a en amont de ça, en arrière, derrière l'envers du décor, comme on dit. Puis ça, c'est pour eux autres, c'est une découverte. Là, tu sais, la première mission, ils font waouh, c'est qui ce monde-là? Ça grouille donc bien. Qu'est-ce qui se passe là? Deuxième émission, mon Dieu, c'est le même.
Mais
font,
ça explique peut-être, les codes d'écoute sont autour de 450 000, donc...
Petit peu plus que ça, quand même.
Mais c'est les chiffres qu'on a eus, peut-être sans les enregistrements numériques, pardon.
Oui, c'est ça.
Mais pensez-vous que le public va s'accrocher tranquillement parce qu'il y a quand même 24 émissions?
Oui,
donc, apprendre à vous connaître.
Oui, c'est sûr que oui. Les gens, on n'est pas des têtes d'affiche nous-mêmes. Mm-hmm. Ça aussi, ça, tu sais, TVA a quand même... on dit tout le temps, on voit toujours le même monde à TV, toujours les mêmes têtes, bien là, il y en a des têtes différentes que vous ne voyez pas
mais
tout le temps.
Mais c'est rafraîchissant, ça, c'est
rafraîchissant, là. Fait que c'est ça, venez donc voir.
Les codes d'écoute...
Ça crie du cœur, ça.
Les codes d'écoute frôlaient, en fait, le million avec les enregistrements puis la rediffusion. On était à 980 000, je pense, un truc comme ça. Ouais. Donc, c'est des très, très, très bonnes codes d'écoute. Et après ça...
Canadien-Boston, lundi dernier.
Ouais,
ça aide pas les agents.
Sauf qu'il ne faut pas se fier au code d'écoute parce que un show, c'est toujours comme ça. Quand un show commence, il faut que les gens s'adaptent, il faut que les gens s'accrochent, il faut que les gens prennent le temps de rentrer là-dedans et c'est très, 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 très normal que les gens vacillent, qu'ils se demandent, je vais-tu y aller, je vais-tu pas y aller, je vais regarder un épisode là, la semaine d'après là, puis là, tout d'un coup, ils accrochent, puis moi, je vois déjà l'évolution entre le premier épisode puis le deuxième épisode. Je constate déjà les commentaires de gens qui étaient sceptiques au premier épisode qui, là, reviennent sur leur décision en faisant « Hey, finalement, je trouve ça super, on prend notre envol. » Donc
ils vont découvrir notre histoire à nous, nos personnages aussi, parce que non seulement il y a les vedettes qui sont les vedettes invitées chaque semaine, mais en filigrane de tout ça, il y a notre histoire à nous, chaque agent, chaque personnalité, qu'est-ce qu'on vit.
Différente.
Oui, qui est clairement différente, tu sais.
Ce qui s'en vient est tellement le fun à chaque fois que ça va tranquillement adhérer. Puis on est effectivement pas des grosses faces. Je suis pas Patrick Huard, moi. Fait qu'au départ, le monde se déplace moins vite. Mais tranquillement, là, ça va prendre sa place.
Ben, moi, je me dis, je suis rendue à l'épisode 4. J'ai bien hâte de voir la suite. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup.
Oui, merci
Karine Gontier-Heinemann, Bruno Marcil, Daniel Lorrain et Benoît Moffett. Merci.
Merci à vous.
Les invisibles demain.
Merci.
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 Bye. 21h.